RMC GG 2022.
Votre voix compte.
GG 2022, c'est le journal du off avec le service politique d'RMC et c'est Pierrick Bonneau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierrick.
Bonjour à tous.
On va revenir sur cette semaine agitée sur le plan politique. On commence par déjà l'appel d'Édouard Philippe à une large coalition.
Qui fait réagir son ancienne famille, évidemment. Les Républicains, ils ont découvert la proposition de l'ancien Premier ministre sur leur téléphone portable alors qu'ils étaient tous réunis en bureau politique hier soir. Pas surprenant qu'Édouard sorte du bois maintenant, s'exclame un député LR. Il a toujours été tenté de tuer son ancienne famille politique, c'est son fonds de commerce. Mais non, c'est non, nous n'alimenterons pas la majorité d'Emmanuel Macron, assure ce cadre à Les Républicains.
Et puis un petit peu plus tôt dans la journée, c'est François Bayrou qui lui-même aussi avait parlé d'Union Nationale.
Oui, coalition, Union Nationale, comme en 1945, à chacun sa formule. Commentaire d'un cadre écolo, je n'y crois pas une seule seconde. Il faudra que Macron promette en même temps le SMIC à 1500 euros pour la gauche et l'immigration zéro pour le RN. C'est non aussi du côté du Rassemblement National. On ne va quand même pas nous mettre autour de la table avec la NUPES et Ensemble, ça va exploser. Nous ne sommes d'accord sur rien. Et puis selon un député Les Républicains, cette idée est le meilleur moyen de faire élire la France Insoumise ou le Rassemblement National dans 5 ans.
Alors ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que ou c'est l'intérêt supérieur de la nation ou c'est l'intérêt personnel. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent à l'intérêt supérieur de la nation, ils pensent surtout au nom de leur intérêt personnel, que ce soit Édouard Philippe ou François Bayrou, qui, quand on leur dit...
Il fait des offres de service.
Voilà ça. Quand...
À Matignon.
La stratégie passe par moi.
François Bayrou veut être Premier ministre. Ah bon.
C'est bizarre.
Depuis 2017.
En fait, ils sont tous à se dire, je suis l'homme de la situation ou qui va pouvoir faire cette cohabitation, entre guillemets, puisqu'on peut parler clairement de cohabitation aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
On a surtout l'impression que personne ne veut vraiment aider Emmanuel Macron en ce moment.
Je suis assez d'accord avec toi, Pierre.
Ni à gauche, ni à droite.
Je suis assez étonné de voir des gens qui sont quand même qui sont des alliés d'Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe ou François Bayrou. Chacun y va de ses propositions, c'est pas concerté. Et donc, ça montre bien qu'on a un chef d'État qui est seul, mais qui n'a jamais été aussi isolé. Ça a été le cas avant, mais c'était un peu masqué, parce que comme il décidait de tout... Bon. Et là, maintenant, on a un président qui est nu, en fait. Je sais plus qui a dit ça, le roi est nu. Le roi est nu et il n'est pas aidé par ses alliés.
J'ai l'impression qu'il est affaibli. Affaibli dans le sens où même presque effacé. Alors, j'avais dit la semaine dernière que du coup, il avait laissé la place vide et que Mélenchon avait occupé la place. Et là, depuis les élections législatives, le deuxième tour, la place est vide et c'est Édouard Philippe et Bayrou qui occupe la place. Enfin, il y a un moment, j'aimerais bien voir celui pour lequel on a voté. J'aimerais bien qu'il reprenne un peu les rênes, qu'il nous parle, qu'il s'exprime. Parce que là, vraiment, tout le monde, parle, sauf lui. Ou alors 2 secondes sur le tarmac. Donc non, il y a vraiment, là je crois qu'il y a vraiment un problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème au sommet de l'État là.
Vous parlez d'allocution, on ne sait même pas quand le président va s'exprimer. Parce qu'on a souvent la confirmation très tard.
Il part ensuite en tournée diplomatique. Donc les fenêtres de
jusqu'à la semaine prochaine. Et bon. On sait toujours
peut-être
pas.
Peut-être ce soir.
Et puis n'oublions pas un facteur. Macron va faire de moins en moins peur. Il ne peut plus être candidat en 2027. Donc, est-ce qu'on va être dans la situation du lèche, lâche, lynche ? Ça va être intéressant, cette séquence politique, on en parlait tout à l'heure. Ce qui va se dessiner là, on le voit, avant même l'élection de 2022, on avait déjà observé des candidats, que ce soit chez les LR, au sein de La République En Marche ou d'autres partis, qui avaient oublié 2022 en considérant que de toute façon Emmanuel Macron serait réélu et hypothéquaient déjà 2027. Donc là, cette séquence qui se passe, entre une Assemblée nationale compliquée à gérer, un président... où au fond, il n'y a plus vraiment d'enjeu, puisque à part être nommé ministre, tu veux lui demander quoi quand t'es politique? Il y aura quoi? 40 ministres, secrétaires d'État ou sous-secrétaires? C'est tout ce qu'il va y avoir. Tu ne vas pas contempler l'appétit de toutes celles et ceux qui ont aujourd'hui soif de pouvoir.
Mais justement, puisque tu parles du pouvoir, il y a un poste aussi qui est convoité. C'est ce qu'on appelle le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale.
Exactement, qui devrait revenir, sauf énorme surprise, puisque la majorité relative appartient à Ensemble. Ce poste devrait revenir à Ensemble. Le vote aura lieu mardi prochain dans l'hémicycle, mais les candidats à la candidature au sein de cette majorité avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître. Ils seront départagés cet après-midi dans une sorte de primaire interne. Et certains candidats ont tenté de faire beaucoup de bruit ces dernières heures, n'hésitant pas à appeler eux-mêmes le service politique d'RMC pour dire qu'ils étaient candidats. Je fais fuiter mon nom pour voir comment ça retombe, assume l'un d'eux.
Alors,
carrément.
Reprends ça, coup de fil au service politique d'RMC.
Eh ben, alors c'est souvent, vous avez parlé d'un de mes collègues députés qui sera candidat. Moi aussi, je serai candidat. Vous devez le dire aussi parce que il faut faire de la pub. Il faut
mais
faire,
faire
campagne. Est-ce
qu'on a
Éric Woerth? Je vais vous les donner.
Voilà, les candidats déclarés.
La ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, l'ex-ministre Barbara Pompili, Sophie Errante, c'est une députée. Joël Giraud également, Roland Lescure, effectivement, l'ancien LR Éric Woerth, qui va pas vraiment pouvoir compter sur les voix des Républicains. Non. Vous rigolez, s'étouffe l'un de ses anciens collègues. C'est bien la dernière personne pour qui je voterai, nous dit un député Les Républicains. Ah, oui, oui. Et selon nos informations, le Rassemblement National, qui veut peser, on l'a compris, dans cette législature, présentera également un candidat. La NUPES y réfléchit. Et puis côté LR, c'est Annie Genevard, vice-présidente sortante de l'Assemblée, qui est sur les rangs pour se présenter au perchoir.
Moi, je mettrais une petite pièce sur
Yael Braun-Pivet.
Qui est mis à réaliser.
Il y a Laurent Lescure aussi. Son nom revient beaucoup dans la majorité quand on en parle.
Et peut-être aussi Barbara Pompili, parce que c'est une femme, c'est une écologiste.
Trois pièces.
Non, de mettre deux pièces. Pivert et Pompili.
D'accord,
Pompili.
Deux pièces.
Et Roland Lescure, Pompili, c'est ma pièce à moi.
Pompili, parce que elle va pas braquer la gauche. Pompili, elle vient de la gauche.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que visiblement, dans l'entourage d'Emmanuel Macron et dans Ensemble Renaissance, on n'avait pas prévu la défaite de Richard Ferrand.
Ah non, ça c'est sûr.
Ni celle de Christophe Castaner, c'est-à-dire l'homme qui était au perchoir et celui qui tenait le groupe des députés
et
de
Mignola
la majorité.
Pour le MoDem aussi.
Ouais. Et donc on a pas de plan B.
T'en as deux qui ont perdu d'ailleurs. T'as Richard Ferrand et t'en as un autre qui était au perchoir. Je crois qu'il était présent la questure également.
Oui. Le bachelier, Florent Bachelier,
qui est sorti également. Hein, donc ça fait quand même deux personnalités qui pendant 5 ans étaient au perchoir dans des situations que eux ont estimé un peu compliquées. En matière de bruit, LFI qui faisait. Oui, là, c'était l'apéritif. Hein. Là, ils vont passer au plat de résistance direct. Hein.
C'était pas quand même l'assemblée la plus compliquée à gérer, la précédente, avec une très forte majorité en marche, qu'il n'y avait pas de frondeur. Là, en plus, comme le dit, comme tu le dis, c'est que comme Emmanuel Macron ne se représente pas, au sein même de cette majorité, ça très vite, il y a des personnalités qui vont vouloir jouer émerger, leur propre jeu. Ouais.
Ah oui, là, on est dans une situation politique.
Une femme au perchoir?
Ce
serait une première d'ailleurs à l'Assemblée nationale, je crois. Hein. Parce qu'il y a eu déjà eu des vice-présidentes, mais vraiment titulaires de la chaire, si je puis dire, titulaires de la présidence de l'Assemblée nationale.
Et Ségolène Royal qui souhaitait le perchoir.
Elle a postulé pour tout. Elle a même postulé pour faire la cafétéria en bas du truc. Elle a postulé pour faire les snacks à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
Tu as deux enjeux, puisque tu as la présidence de l'Assemblée nationale et puis avoir la bataille aussi pour la présidence
du groupe.
Groupe et aussi de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Qui voilà. devrait revenir au premier groupe d'opposition, c'est la tradition. Rassemblement national du PS, ça peut être également. On peut aussi déroger à la tradition. Hein,
si il n'était pas bon d'être président à l'Assemblée nationale, on le voit bien. Ferrand, Castaner, Barbara Bessot-Ballot, qui était présidente de la commission gastronomie de l'Assemblée nationale, qui était balayée face à un candidat RN dans le Doubs. Donc ouais, il y a beaucoup de postes disponibles le jour de l'Assemblée nationale. Hein.
Merci Monsieur Pierrick Bonneau, merci pour toutes ces petites indiscrétions en ce qui concerne les coulisses du monde politique et ça va largement continuer au fil des semaines. On va passer maintenant au quiz des GG.
En direct du plateau 1 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Quiz des GG avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Que notre ami Mehdi Guézard appelle depuis le début de l'émission en coulisses.
Jamiroquai,
parce que tu as mis un blouson façon Jamiroquai.
Et le pantalon aussi. Les GG. Quel homme d'affaires est suivi à la trace dans ses déplacements sur les réseaux sociaux? Homme d'affaires français. Milliardaire.
Bernard Arnault.
Ouais. Bernard Arnault, bravo Mehdi. Bernard Arnault, notamment pour scruter son empreinte carbone. Le milliardaire est épinglé pour l'usage de son jet privé. C'est le compte Instagram L'Avion de Bernard qui propose d'observer au quotidien les déplacements du jet du patron de LVMH. Écoute Mehdi, l'auteur se base sur des données publiques issues des sites qu'on connaît bien, Flightradar ou Open Sky Network. Résultat, en mai, son jet a effectué 18 trajets pour 46 heures de vol et 176 tonnes de CO2. C'est l'équivalent du bilan carbone d'un Français moyen en 17 ans.
Oui, mais il n'emploie pas comme un Français moyen. Et je suis désolé, quand t'es le plus riche du monde, tu
oui, mais là, on parle de son bilan carbone. C'est un fait. On retiendra notamment, et là, tu vas me dire si t'es d'accord, Stéphane, ce trajet depuis Londres vers Londres. 10 minutes de vol d'un aéroport londonien à un autre aéroport londonien. C'était le 28 mai dernier. Voilà, quand même.
Et là, c'est pas lui qui se déplaçait. C'est peut-être pour des raisons techniques, etc.
Et
non, mais il y a surtout un type qui passe sa vie à tracer, qui passe sur Instagram.
Ouais. Il n'a pas la viande Bernard.
Je veux dire, il y a vraiment des jaloux et des aigris quand même.
Il y a des gens
qui s'emmerdent dans la vie.
Moi, je pense que c'est une fierté française que d'avoir Cocorico. Un type qui emploie un homme,
on a pas dit le contraire.
Qui emploie des milliers de personnes, qui fait vivre l'artisanat français, qui rachète des sociétés dont on ne savait même pas qu'elles existaient pour faire vivre le textile en France.
Le numéro du luxe dans le monde.
Moi, je dis bravo. Quoi. Oui, puis si on en est plus des personnes comme lui, il y aurait moins de chômage, on paierait moins d'impôts et on se porterait tous mieux.
Le jet privé, pour beaucoup, c'est leur bureau. C'est-à-dire qu'ils travaillent à l'intérieur du jet. Tu n'es pas dépendant des compagnies aériennes. Parfois, tu peux avoir un rendez-vous de dernière minute, un contrat à conclure. Bon.
Et puis, il est traqué quand même, cet homme. Il a, selon mes informations, entre guillemets, il a une soixantaine de personnes qui s'occupent rien que de sa sécurité. Vous vous rendez compte? C'est pas le monsieur tout le monde. Quand t'es l'homme le plus riche du monde, que tu emploies autant, t'as pas que des gens sympathiques qui veulent te voir. Hein.
Mehdi.
On va pas le plaindre.
Ah bah, mais c'est pas.
Je suis d'accord avec ce que t'as dit.
Il y a un problème, de toute façon, il y a toujours eu un problème.
C'est misérabilisme.
Avec l'argent, avec avec la réussite. La réussite sociale a toujours été un problème pour une partie.
J'ai trouvé un compte, c'est Suis Mehdi et son 4x4 aussi. Il vient d'être créé sur Instagram pour tous tes trajets. Et là, je peux te dire.
Faire 50 mètres.
Non, mais ils sont pas très à la mode, parce qu'il faudrait faire. Mais
toi, t'es en voiture électrique, toi, ça va.
En 4x4 électrique.
Oui,
il faudrait faire un compte, Suis Mehdi dans son futur nouveau 4x4. Ça, c'est tendance.
Bon, les GG.
Alors,
quel candidat ou candidate a fait une faute de français lors de son discours de victoire dimanche soir?
Je dis rien, moi.
Non, c'est une candidate.
Pensez à quelqu'un qui vit avec un homme déconstruit.
Ah, Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau, exactement. Alors, on va voir les GG. On va voir si vous allez réussir à identifier la faute. On l'écoute. Attention, c'est très très court.
Tendre sans doute.
Magnifique campagne que vous avez fait. Je peux vous dire que tout le monde.
Ah oui, c'était ça m'avait choqué. Bravo pour la magnifique campagne que vous avez faite. Donc c'est grammaticalement faux, c'est un mix entre écriture inclusive et déconstruction de la grammaire française. Le COD, magnifique campagne, est placé avant l'auxiliaire avoir. Du coup, on accorde le participe passé au COD.
Oui, mais campagne que vous avez faite.
Exactement.
C'est comme dire celles et ceux tout le temps. Macron, il dit toujours celles et ceux.
Oui, c'est vrai. Non, c'est un type de langage.
Celles et ceux.
Mais du coup, il nous a donné stock, hein, parce qu'on est beaucoup à le faire. Hein.
Oui.
Mais t'en as plein des fautes de langage. Hein. T'as des fautes de langage où tu dis je monte à Paris, je monte sur Paris.
Ouais.
Ah non, tu peux pas monter sur Paris.
Les GG, quel rappeur signe la bande originale du biopic d'Elvis Presley? Quel rappeur américain, je l'ai vu, Eminem. Eminem, titre produit par Dr. Dre, ça s'appelle The King and I. Alors écoutez un extrait.
Avec lui pour prendre ça.
Vous entendez le sample derrière d'Elvis Presley? Donc Elvis dans les salles aujourd'hui.
Il y a très bonne critique, le Elvis de Baz Luhrmann. Ça a l'air assez unanime.
Avec Tom Hanks dans le rôle du méchant, le cynique impresario d'Elvis Presley, qui s'appelle Tony Parker.
On connaît par cœur.
DGG, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Nous sommes tous donneurs potentiels, sauf si on s'oppose de notre vivant au don de nos organes. Si vous êtes devant RMC Story, vous voyez nos petits nœuds verts.
Elle a mis la veste
moi,
complète.
C'est le mérite agricole, moi, que j'ai eu. En
fait. C'est ça. Donc RMC est partenaire de cette journée nationale. C'est important d'en parler à ses proches. Évidemment, en France, ce sont plus de 66 000 personnes qui vivent grâce à un organe greffé. Vous en avez parlé à vos proches?
Vous êtes tous prêts à donner un de vos organes?
Je suis plein ceux qui vont prendre mes rares.
Bah,
je
ne
bois que du coca.
Entre Joël qui ne boit que du coca, Mehdi Guézard qui ne boit que du Red Bull, effectivement.
Moi, je bois que du champagne.
Il y a de mauvais donneurs. Mais les GG, moi, j'ai retrouvé ma carte de donneur dans mon porte-monnaie, carte de donneur.
Que tu viens de faire tomber par terre.
Qui date de... Je l'ai faite en 2011, il y a 11 ans.
Donneur universel.
Comme ça, je sais pas, on touche du bois, mais s'il m'arrive un grave accident,
si
moi.
Si tu as un accident de voiture.
Que j'en ai pas parlé à mes proches.
Les organes.
Non, mais en fait, aujourd'hui.
Oui, on est tous donneurs automatiquement.
On est tous donneurs potentiels.
Sauf si la famille s'y oppose,
effectivement.
Il y a 5 ans.
On a inversé les choses, en fait.
On découpe et on prend toutes ces pièces détachées et puis on les distribue.